A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Le jeune homme assis dans le fauteuil dans sol majeur le dit lui-même « Je suis Gulliver dans un monde de Lilliputiens ». Le encore très jeune homme s'appelle Bolewa Sabourin, chorégraphe franco-congolais, mais surtout survivant, c'est un survivant. Histoire d'abandon parental, de kidnapping, de recherche d'Éden entre le Congo du père, la Rochelle de la mère, le Paris des squats et la danse traditionnelle congolaise venue, je dirais, envelopper, incarner ce corps qui s'est cogné au béton de la vie. Et puis, comme heureusement la roue tourne, aujourd'hui c'est Bolewa Sabourin qui tend la main aux victimes, ces femmes violées de RDC, puisqu'il travaille depuis 2016 avec le gynécologue Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. En sol majeur, on va vous raconter l'histoire de Bolewa, ce résilient, qui après un coup d'aéroport a glissé une résolution dans son sac à dos, écrire son cahier du retour à Kin. Eh bien c'est fait, je l'ai devant moi. Ça s'appelle la rage de vivre.
À la manière d'un monsieur propre, je me suis rasé, défait de ma barbe et de ma moustache. Tel un pèlerin, je suis un homme neuf, libéré de tous ses artifices. Je quitte mon ancienne vie, sweat à capuche sur un t-shirt qui pend sur mon short en jean. Coq sportif au pied, ma part de Gaulois qui me rattrape. Qu'importe, je tourne les talons. Arborant fièrement ce sac à dos que l'on m'a offert, je me casse de la France. J'arrive à l'aéroport, là, les âmes s'entassent et détalent. Je ne suis habité que par une certitude. Ma destination sera forcément un Éden. Le mien se nomme Congo.
Extrait en sol majeur de La rage de vivre, coécrit avec Bala Fofana. C'est un livre qui vient donc de paraître aux éditions Face Cachée. Bonjour Bolewa Sabourin.
Bonjour Yasmine.
Cette autobiographie écrite à quatre mains, est-ce que vous diriez que ça a quand même des vertus thérapeutiques ? Je disais ça parce que c'est un travail presque analytique qui ressort de ces personnages. On pourrait dire que ce sont des personnages, vos parents et vous-même.
Complètement.
Est-ce que c'est l'écriture, vous diriez, qui a produit ce travail analytique ?
Je pense qu'on a toujours eu un regard très critique sur nos personnages et sur nos vécus, sur nos parcours, parce que avant de l'écrire, il a fallu déjà nous le raconter. On est des gens de l'oral, et du coup, le côté analytique vient sûrement de cette double culture entre le pourquoi on se laisse prendre et emmener dans un tourbillon d'aventures, et en même temps, cette analyse que nos études nous ont amené à porter sur chaque chose de nos vies.
Vous êtes de l'oralité, je remarque que vous dites vous, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vous, mais vous n'êtes pas
moi
que
même.
De l'oralité.
Je ne sais pas.
Bolewa, puisque vous écrivez cette phrase, je suis Gulliver dans un monde de Lilliputiens. Vous voulez dire quoi ?
À cette époque, j'étais en politique, et c'est vrai que la manière dont ils pouvaient me percevoir et percevoir les identités multiples avec lesquelles je travaillais, c'était vraiment hyper, ça nous cadenassait et ça nous empêchait de développer vraiment tout le potentiel qu'on avait dans un monde où il faut, pour être français, être franco-français, d'avoir les deux parents, ou dans un monde où on nous perçoit vraiment comme ailleurs, on est aussi d'ici. Donc c'était véritablement cette trajectoire-là qui nous a amené à penser cette réflexion-là.
Chambre intérieure.
Si je vous dis chambre de l'enfance, Bolewa Sabourin, quelle vision immédiate vous avez en pensant précisément à votre enfance ?
J'ai deux visions. L'une où il n'y a pas de chambre, parce qu'on partageait tous la pièce commune quand j'étais petit, que j'étais au Congo. Et l'autre, la première véritablement chambre que j'ai eue et que je partageais avec le chien de la famille, c'était un petit espace qu'on avait organisé avec des planches de bois dans une maison. Et du coup, bah, le chien étant mon meilleur ami à l'époque, du coup, je vivais là avec lui. Donc, à choisir, je pense que je prendrai pas de chambre.
Vous nous présentez Nganda, née en 1957, c'est-à-dire 3 ans avant l'indépendance du Zaïre. Qui est Nganda ?
Nganda, c'est mon père.
Comment vous le présenteriez ? Je donne une image, puisque vous en donnez plein. Un dandy d'1m90, sexuellement libéré. C'est comme ça que vous le décrivez, notamment.
Exactement, ouais. Ouais, ouais. Ça peut être aussi un porte-parole des sans-papiers de Saint-Bernard en 1996.
Avant ça, c'est d'abord un fils de diplomate.
Avant ça, c'est d'abord un fils de diplomate, quelqu'un de très lettré qui étudiait dans les années 70 en France à la Sorbonne. Alors que déjà, moi, quand je suis allé à la Sorbonne, on était 2 Noirs sur 400 en master de sciences politiques, un Parisien. Alors lui, j'ose imaginer combien il y avait de Noirs en train d'étudier à la Sorbonne.
Donc, fils de diplomate, c'est ce qu'on va mettre sur l'état civil
en
premier indice, et danseur, on reviendra sur le danseur. Sauf que cette famille de diplomates doit compter avec un certain Léopard du Zaïre.
Je dois être franc avec vous, ma jeunesse était plus ou moins orageuse, parce que je n'étais pas facile non plus. J'ai commencé mes études primaires chez les pères de Scott. À Kinshasa, je devais continuer en Mbandaka chez les frères des écoles chrétiennes, quelques années chez les pères capucins à Molenbeek, de nouveau retour en Mbandaka où j'ai fait des études secondaires et moyennes avant d'être engagé à l'armée. L'armée coloniale, la force publique de l'époque, en 1950, j'avais 19 ans et demi. C'était la rencontre avec Lumumba qui devait, une année plus tard, donc en 58, fondait le mouvement national congolais de l'époque, le MNC. Des journalistes que j'étais, et ben, cette rencontre avec Lumumba m'a conduit à m'occuper plus de la politique que de tout le reste.
Vous avez été marqué par la personnalité de Lumumba?
Ah oui, ça il faut le dire, et ce n'est pas pour rien que lorsque Lumumba est venu pour discuter avec les autorités belges de l'indépendance nationale, me trouvant sur place, il a fait de moi son secrétaire particulier. J'ai dirigé pendant tous mes travaux son secrétariat particulier.
Pour un seul majeur sur RFI, la voix de Mobutu Sese Seko, devenu maréchal président en 1982. Alors c'est un papa maréchal, on l'appelle comme ça au pays, qui a dans son viseur tous ceux qui ne marchent pas droit, et notamment votre grand-père à vous, Bolewa.
Oui, mon grand-père a eu le malheur, ou peut-être l'intégrité, de porter un regard critique sur le pouvoir et sur le maréchal. Alors qu'il était diplomate en France, et ben il est passé de rien du tout, étant donné que le pouvoir était tout puissant. Tel Dieu, plus grand que Jupiter, il nous a complètement destitué toute ma famille de ses privilèges, pour nous renvoyer à Kinshasa et du coup nous envoyer dans le pire quartier de Kinshasa de l'époque, ce qui a complètement fracassé mon père, mon grand-père et toute la famille. Ma dernière tante est née dans le 16e, dans les années 70, et quelques mois après on se retrouvait
à Matete. Faut donner l'image.
Alors aujourd'hui, ça a changé, hein, mais moi, à mon époque, c'était véritablement des petites maisonnettes où il y avait 5-6 personnes qui vivaient dedans, dans un truc qui contient une ou deux pièces. C'est un bidonville dans un bidonville. Donc c'est de la tôle et de la survie et des gamins partout dans les rues.
Alors votre père, lui, le fils de diplomate déchu, se retrouve un peu en déshérence, enfin un peu beaucoup même, mais c'est une sorte en même temps de séducteur, de crooner de l'amour. Il y a la danse qui va venir sans doute le sauver. Et il va rencontrer votre mère, Colette, née elle en 1965 à La Rochelle, donc en France, et qui elle-même est le fruit d'amour défendu dans ces années-là.
Effectivement, alors mon père déchu au Congo décide de remonter en France et il n'a pas d'autre moyen que de donner des cours de danse pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et il rencontre cette jeune femme qui est, aujourd'hui on pourrait dire Carteron, mais pour nous elle est blanche, même pas Carteron, un cinquième de sang, peut-être de noir, peut-être même d'indien.
Et, on sait qui était son père.
On ne sait pas qui est son père, on pense que c'est un soldat de l'armée américaine qui était basé à La Rochelle, comme beaucoup de garnisons après la Seconde Guerre mondiale, qui se sont basés là-bas.
Et, donc un soldat afro-américain.
Peut-être afro-américain, peut-être indien, en tout cas native américain.
Alors à la naissance de Colette, quelle est la réaction des grands-parents ?
La réaction, c'est que le teint est un peu trop foncé. Et du coup, avant même que Colette naisse, en fait, on décide d'envoyer sa mère à l'hôpital psychiatrique. Et du coup,
aimer éventuellement un noir, c'est ne pas être normal, c'est être fou.
Ah, c'est surtout parce que oui, c'est être fou, mais c'est surtout vouloir garder cet enfant. C'est encore pire.
C'est une folie.
C'est une folie, vu que on est dans ce système hyper patriarcal. Et ben, le père a autorité sur ses enfants et sur sa femme. Il décide de mettre leur fille à l'hôpital psychiatrique et Colette naîtra à l'hôpital psychiatrique.
Alors votre mère, vous racontez ça, on est obligé de résumer parce que tout ça va avoir en même temps beaucoup de répercussions sur votre propre vie à vous, Bolewa Sabourin, mais on est obligé de résumer. Votre mère, qui est une bombe hein, physiquement, vous donnez une image, elle ressemble pour ceux qui s'en souviennent dans les années 80 à la chanteuse Sade, c'est pas rien. Elle se sépare de votre père 3 mois après votre naissance, en 85 à Paris, elle tombe dans la drogue, elle se shoot à l'héroïne et elle connaît quelques épisodes en hôpital psychiatrique. Et c'est là, alors là vous avez 3 ans à ce moment-là, que votre père vous kidnappe.
Justement, j'avais 1 an.
Ah, vous aviez 1 an, oui. Donc. Direction le Congo, je vous cite, à Matete, une des poubelles de Kinshasa.
Ma vie de gamin de bidonville reste, à ce jour, la plus belle période de ma vie. Je suis constamment dans la rue. J'erre, je foule le sol en terre battue, couleur Roland-Garros. Le terrain de foot est mon fief. J'y affronte des gens plus forts et plus grands. Je m'impose, gagne le respect sans le quémander. En Moïse du pauvre, je fends en deux le sol poussiéreux de ma tétée. Ma nono veut canaliser mon énergie débordante. Mon nom qui grandit dans le quartier et mes disparitions du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Elle a peur que je devienne un chégué, un gosse des rues livré à lui-même. Ce serait un drame que son unique petit-fils, en partie Mundele, blanc, soit analphabète, vive de petites combines et soit vu comme un maudit, un misérable, un mendiant. La lionne prend les rênes. Un de mes oncles me fournit le nécessaire pour une scolarité décente. Je rejoins les bancs de l'école à 4 ans. Tout est à refaire. Là-bas, je suis le petit blanc, ou l'indien à cause de mon teint plus clair et de la texture plus lisse de mes cheveux.
Je prends la plume pour dire merci à ceux qui ont pu me soutenir. Un sourire dans ma mémoire, un vide dans mes souvenirs. J'ai jamais su décrire la douleur que je ressentais. Je me plains pas, y est mille fois pire. Je suis toujours en bonne santé. J'ai ma famille au complet, les meilleurs amis possibles. Les poches vides mais le cœur plein, je prie pour que la suite soit facile. L'esprit libre, j'analyse les 21 piges de mon parcours. Mes cicatrices demeurent à vivre, elles ressurgissent chaque jour, partout, à chaque seconde où je respire. La vie avance accompagnée de ceux que j'estime peu sont les vrais. Peu ce sont qui ont vu mes larmes. C'est pour eux que j'écris ceux qui ont toujours été là. Chaque syllabe de chaque rime rend hommage à mon entourage. Ils méritent plus qu'une musique en témoignage de leur courage. Ils méritent leur réussite, le bonheur pour l'éternité. Grâce à eux j'ai compris le vrai sens de la fraternité.
Alors qu'on se comprenne bien, Bolewa Sabourin, dans Fauteuil dans Sol majeur, vous allez donc tenter, durant votre enfance et votre adolescence, cette mission presque impossible, vous construire affectivement, identitairement aussi, entre 3 axes. Donc le bidonville de Matete au Congo, le béton et le rap à Paris. Et à un moment donné, il y aura une grosse parenthèse avec les grillons de Martinique. Comment vous décririez cette construction ?
C'est vertigineux parce que ça nous fait penser à toute cette histoire, en fait, de la traite négrière. C'est ce triangle-là qui est ma vie, en fait. C'est vertigineux parce que du coup, on a l'impression d'incarner ça alors qu'on n'a rien demandé à personne.
Comment vous vous construisez dans ce bidonville de Matete au Congo ?
Par les points, par ça, par le foot, beaucoup. Et aussi, je pense, par une énergie de la survie.
Vous avez la sensation là-bas d'avoir une famille parce que bon, votre père n'est pas vraiment là, votre mère a disparu de la circulation. Là, vous vous retrouvez dans la famille...
Mais il y a ma grand-mère.
La famille paternelle.
Il y a ma grand-mère. Ma grand-mère, elle n'était pas contente que je sois là. Parce que mon père, qui est l'aîné, a un peu abandonné sa famille. Et il revient comme ça, la bouche en cœur, déposer son fils, son petit bâtard. Et elle, qui a rien, se retrouve en charge, en plus d'un petit bâtard. Ma grand-mère m'a quitté ce dimanche. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de puissant pour moi de parler d'elle parce que vraiment, je me rends compte à quel point elle m'a sauvé la vie.
On va dédier cet en sol majeur à votre grand-mère, oui. Belewa Sabourin. C'est quoi le cadre quand vous arrivez à Paris ?
C'est le 15e arrondissement, le béton, le froid, les blancs, le français. Et l'isolement. Alors,
vous êtes un peu jeté comme un sac, hein, dans des coins d'immeubles, de grands apparts.
De grands apparts. Il y a des chambres, il y a plein de choses, mais je ressens plus d'amour.
Et les adultes ne sont pas des parents pour vous.
Non, ils sont des gardiens. Ils me gardent.
Et puis, il y a, comme je le disais, une grande parenthèse en Martinique où vit votre mère.
Oui, elle a rencontré un Antillais, un Martiniquais. Et l'a suivie, elle est partie vivre là-bas.
Mais c'est pas simple identitairement là-bas non plus, en Martinique pour vous.
Non, Martinique c'est très compliqué parce que je revendique mon africanité, je revendique mon côté charentais. Et donc pour eux, je suis un négropolitain. Je suis la pire des races, le français et africain. Donc je représente l'Africain qui les a... vendu, le frère qui les a vendus et trahis, et je représente le négrier qui les a achetés et soumis à l'esclavagisme. Et surtout, ils veulent pas, eux, se reconnaître d'Afrique, et en même temps, ils ne veulent pas accepter qu'ils sont français. Et donc, je vais me faire courser, je vais me faire... harcelé. Mmh.
Comme vous dites, vous êtes là où vous allez, vous êtes forcément du côté de la minorité.
Toujours.
Votre seule boussole, votre seul GPS dans ce premier tableau de vie errante comme ça, c'est la danse. Mais laquelle ?
La danse traditionnelle congolaise, qui m'a été transmise très jeune par mon père, par les cours qu'il donnait déjà, et rien que ma naissance est une naissance grâce à la danse.
Vous êtes né d'un cours de danse.
Je suis né d'un cours de danse parce que ma mère a perdu les os dans la salle de danse.
Et c'était une des élèves de votre père.
C'était une des élèves de mon père et donc une des nombreuses conquêtes de mon père. Et puis après, plus professionnellement, par un ami de mon père que j'ai appelé très tôt mon oncle. Et du coup, lui qui avait des enfants... Métis aussi avait un vrai projet pour ses enfants et donc il nous a entraînés d'être des soldats des danses traditionnelles congolaises. Lui qui était danseur du ballet national du Zaïre, il nous a vraiment transmis sa vision.
Alors il y a forcément dans votre programme en sol majeur de l'écorché vive, l'interprétation est celle de Diams, c'est la Diams d'avant le voile. Pourquoi vous vous sentez proche de ces mots ?
Je me suis senti proche de ces mots à cause de tout le travail que j'ai pu mener, notamment dans l'écriture de mon manuscrit à moi. Et puis après, j'ai raté aussi beaucoup lorsque j'étais plus jeune, parce que c'était une femme.
Et Vous avez raté quoi ?
J'ai raté sa vraie présence dans le rap. Et je l'ai mis à distance parce que c'était une femme, et que je me reconnaissais pas dans ses mots, quand elle parlait des jeunes demoiselles, recherche un mec mortel et autres. Et en fouillant, en grandissant, j'ai découvert cette autre chose et aujourd'hui je me sens plus proche d'elle que de bien des hommes.
Écorché vif parce que la vie, parce que je me tue à vivre, parce que je me tue à dire au monde que les héros ne sont que dans les livres. Écorché vif parce que je comprends rien au bonheur, car à chaque fois que j'y ai goûté, j'ai toujours fini en pleurs. Je suis écorché, Car j'ai du mal avec l'amour, je suis la poésie quand tout d'un coup la haine se fait bravoure, écorchée vive. J'aime la musique comme ce n'est pas permis, mais il y a la vie, donc on ne me permet pas d'en vivre. Je suis écorché vive. Si tu peux, vas-y, dis-leur que quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. Écorché vive, parce qu'il y a de l'orage à l'horizon et que ton mari devient un criminel parce qu'il perd la raison. Je suis écorché, bien sûr. Comment vivre autrement quand les rêves ne servent à rien à part mentir aux enfants? Écorché vive. Quand j'ai bâti, tant bien que mal, une vie meilleure que celle des autres et qu'on m'a juste dit c'est normal. Écorché vive.
Moi, président de la République, je ne serai pas chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
Quand on m'apprend que je suis un espoir, que je devrais profiter de ma gloire pour ne plus pleurer le soir, écorché vive. Depuis quand disque d'or te soigne? Depuis quand le succès stagne? Et puis c'est quand que je gagne, écorché.
Question en sol majeur posée à vous, Boléwa Sabourin. Pour quelle promesse de campagne vous avez décidé de soutenir François Hollande en 2012?
Alors j'ai décidé de soutenir François Hollande pour l'attestation du contrôle d'identité, pour mettre fin au délit de faciès dont on a été trop souvent et on l'est toujours victime. Et ça a été mon seul et unique combat pour cette campagne.
Car vous vous retrouvez, en fait, votre histoire est incroyable en même temps, hein. Vous vous retrouvez au mouvement des jeunes socialistes par le hasard d'une belle rencontre, celle de Laurence Degnaud, la présidente des MJS. Et alors, ce qui m'intéressait, c'était de zoomer un petit peu sur ce 9e congrès national de ce mouvement, parce que pendant ce congrès, vous réalisez un show sur l'identité, et d'ailleurs en réponse au débat sur l'identité nationale de ce cher Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous avez imaginé sur cette question de l'identité ?
J'avais imaginé que mes deux identités pouvaient vivre ensemble pleinement, parce que je me souviens très bien, un jour, quelqu'un m'a dit « un jour, il faudra que tu choisisses, t'es français ou congolais ». Ça a été très compliqué, parce que j'étais très jeune, que j'avais pas du tout les billes intellectuelles pour pouvoir bien comprendre cette réflexion cognitive. Donc du coup, je crois qu'au fond, j'ai toujours refusé d'être soit l'un, soit l'autre, ou de noyer mes deux identités. Elles cohabitent, elles sont toutes les deux hyper présentes. Et donc j'avais fait un show où il y avait aussi bien de la musique congolaise et de l'autre côté du Yann Tiersen.
On reviendra tout à l'heure sur cette période politique et formatrice, hein, pour vous, qui s'est quand même conclue par une grande distance, d'après ce que j'ai compris, avec la chose
grande.
Politique. Voilà. Mais j'aimerais qu'on se rapproche maintenant de votre Congo et surtout de cette main de chorégraphe bienveillante que vous avez tendue au prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Donc,
oula.
Non, oula.
Bah... C'est lui qui m'a tendu une grande main.
Ah oui, mais c'est... je trouve qu'il y a eu une rencontre quand même. Hein. Donc, je rappelle, Denis Mukwege, gynécologue qui répare les femmes violées à l'hôpital Panzi de Bukavu, à l'est de la RDC.
Un jour comme les autres, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue en larmes implorait « S'il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Ainsi, nous avons envoyé une ambulance comme nous le faisons habituellement. 2 heures plus tard, l'ambulance est revenue. À l'intérieur, une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement amené en salle d'opération. Quand je suis arrivé, les infirmières, toutes en larmes, la vessie du nourrisson, son appareil génital, son rectum étaient gravement endommagés par la pénétration d'un adulte. Nous prions en silence. Mon Dieu, dites-nous que ce que nous voyons n'est pas vrai. Dites-nous que c'est un mauvais rêve. Dites-nous qu'au réveil, tout ira bien. Mais ce n'était pas un mauvais rêve. C'était la réalité. C'est devenu notre nouvelle réalité en République démocratique du Congo.
J comme j'accuse.
Alors, en écoutant sur RFI un extrait du discours de Denis Mukwege lors de sa remise du prix Nobel de la paix, j'imagine, Bolewa Sabourin, que vous devez vous rappeler la première fois que vous avez croisé cette figure paternelle.
Mmh. Une vraie figure paternelle sur laquelle j'étais en errance et je recherchais quelqu'un congolais qui donnerait toute sa force pour le Congo.
Et, vous recherchiez ça consciemment ?
Inconsciemment. Inconsciemment, un mois avant, je venais de perdre mon maître, qui était mon prof de danse,
Mouchimaye.
Et je pense qu'inconsciemment, je recherchais ça. Et quand je l'ai vu physiquement et que je l'ai entendu nous dire que ne serait-ce qu'une femme violée, c'est trop, ce mot aussi simple que ça montrait toute la puissance de l'être. Donc c'était un 8 mars 2016 à l'Hôtel de Ville à Paris.
Journée de la femme.
Journée internationale des droits de la femme, oui. Et je lui ai demandé comment moi, petit franco-congolais de 30 ans à l'époque, je pourrais lui être utile à lui ainsi qu'aux femmes congolaises. Parce que ces femmes congolaises représentent ma grand-mère, mes tantes, ma famille. Et comment j'aurais pu lui être utile. Et il m'a dit, faites-moi un projet. Et à ce moment-là, je lui ai fait un projet. Et en fait, il s'avère qu'ils utilisaient déjà la danse au Congo, à Bukavu.
Alors, il faut redire que Mukwege, qui intervient depuis 1999 dans cette région de RDC où la guerre voit s'affronter des soldats de 8 pays à ce moment-là, sans compter les milices, et donc sur ces terres, le viol est une des armes de guerre. Alors comment ça se passe pour vous avec lui, Bolewa, vous qui apparemment, j'ai cru comprendre que c'est lui qui vous a inspiré le projet qui s'appelle Recréation, avec oui. Votre association Loba. Je dirais, dans un premier temps peut-être, pour qu'on dise, puisqu'on nous écoute d'ici, c'est que ce projet vient contredire un peu la médecine des Blancs.
Alors... Elle vient contredire et en même temps, elle vient aussi, encore une fois, comme avec mes identités, cette médecine des Blancs, elle vient aussi s'ajouter à notre médecine ancestrale.
Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, une femme qui a été violée, très jeune, elles sont toutes très jeunes, ces jeunes femmes, ça ne peut pas passer par un travail psychanalytique, psychothérapeutique, ce n'est pas dans la culture.
En tout cas, pas psychanalytique et pas celle qu'on a l'habitude de voir avec Freud, où on est assis ou allongé en train de raconter nos problèmes. Ça, on le fait ici, en Occident. Pour elles, culturellement, ça ne se fait pas. Et elles n'en ont même pas conscience, en fait. Elles n'y pensent même pas. Il y a un biais là-dessus, cognitif, où elles... ça ne leur parle pas. Donc c'est pour ça que la danse que Alice a mis en place fonctionne bien. Moi, quand je suis revenu de là, ce que je me suis dit, c'est que justement, notre idée, recréation, donc cette rencontre entre un danseur et un médecin, pouvait donner lieu justement à un travail de binôme entre un danseur et un ou une psychothérapeute qui travaillerait ensemble pour réfléchir à des ateliers, donc d'abord de danse, suivi d'une heure de groupe de parole, où on pourrait parler du moment dansé. Et donc du coup, c'est encore une fois pour moi faire preuve de mes deux identités, utiliser du coup cette danse ancestrale, sur laquelle j'ai dansé toute ma vie, et elles aussi, avec ce groupe de parole animé et en lien avec du coup une psychothérapeute qui fait que la parole soit fluide. Il nous faut quand même pousser ces femmes à utiliser des mots pour prendre conscience.
Mais ce sont des mots autour de cet état dansé, comme mmh. vous dites,
c'est
de
Léoua,
mais pas autour du traumatisme lui-même, du viol lui-même.
Ça peut. Ça peut, parce que cet état dansé peut être justement l'état où le corps se remémore ce moment du trauma et du viol. c'est un accompagnement. On peut juste leur permettre de trouver des clés et des portes qui vont, elles, leur permettre véritablement de vivre avec le trauma, parce qu'en fait, on ne peut pas réparer les traumas. Il faut apprendre à vivre avec. Une fois qu'on a été violé, on a été violé.
Et de cette démarche, vous en avez fait un spectacle qui s'appelle Recréation.
Qui s'appelle L'Arme, le spectacle, mais la compagnie s'appelle Recréation.
Alors qu'est-ce qu'il y a à voir sur scène ?
Alors sur scène, il y a à voir notre compagnie qui raconte en fait l'histoire de femmes qui ont été victimes du viol comme arme de guerre. On a eu des témoignages de femmes, de ce qu'elles avaient vécu, et en fait c'était tellement fort qu'on voulait sensibiliser les gens à ce qui se passe là-bas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le docteur Denis Mukwege, mais quand je dis tout le monde, je parle des hautes sphères, de l'ONU, des chefs d'État. Mais plein d'amis à moi ne connaissaient pas le docteur Denis Mukwege, ne connaissaient pas le viol comme arme de guerre, ne connaissaient pas les problèmes liés au coltan. Tout ça, en fait, nous a poussé à nous dire que par la danse, c'est un moyen de faire venir des gens qui vont avoir l'impression de juste de voir un spectacle de danse congolaise, et ça va être super cool. Et en fait, derrière, on témoigne, on prend la parole pour, encore une fois, sensibiliser.
Bolewa, c'est quoi la mission de votre association Loba ? Ça veut dire quoi, Loba ?
Loba, ça veut dire parle en lingala, exprime-toi. Notre mission, c'est mettre l'art au service de la cité, faire que l'art soit autre chose que quelque chose de contemplatif, que ce soit un vecteur d'engagement, un vecteur de santé publique,
donc vous êtes politique, d'éducation. En fait.
Ah, je suis très politique, mais je me suis éloigné de la politique politicienne pour revenir à ma source première qui est la politique citoyenne, celle du bien commun, où on utilise justement l'art qui est un bien commun pour juste permettre à des personnes qui sont les plus en difficulté de eux aussi s'en sortir par quelque chose qui soit un peu plus populaire.
Donc l'artiste activiste que vous êtes en pince forcément pour certains prêcheurs.
Qui a dit qu'il fallait haïr la texture d'une chevelure ? La couleur de la peau au point de la blanchir pour ressembler à l'homme blanc. Qui a dit qu'il fallait détester la forme de votre nez, de vos lèvres ? Qui a dit qu'il fallait se haïr soi-même, de la tête aux pieds ? Qui a dit qu'il fallait haïr son prochain ? Qui a dit qu'il fallait haïr la communauté à laquelle vous appartenez au point que vous ne souhaitiez plus en faire partie ? Au lieu de vous demander si Mohamed Ali promeut la haine, demandez-vous qui vous a enseigné cette haine de vous-même que le bon Dieu vous a donnée. En tant que musulman, je crois que l'homme blanc est suffisamment intelligent pour comprendre ce que l'homme noir ressent et à quel point nous en avons assez de ces compromis et de ces rondes jambes. Arrêtons de bavarder et allez voir l'homme blanc pour lui dire ce que vous ressentez. Parlez-lui de l'enfer dans lequel vous vivez et dites-lui bien que s'il n'est pas prêt à nettoyer devant sa porte, il ne devrait pas avoir de maison. Elle finira dans les flammes.
D comme damné de la terre.
Bolewa Sabourin, est-ce que vous considérez, comme certains de vos aînés, que vous faites toujours partie des damnés de la terre ?
Oui. Parce que je pense que les damnés de la Terre apporteront la lumière à ce monde.
Qu'est-ce qui va se passer ? La révolution ? Prônée par Malcolm X ?
D'un côté, j'aimerais vous répondre oui, parce que c'est mon côté français. Hein. On a grandi avec l'idée de la révolution, hein, de ce roi à qui on a coupé la tête. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que la révolution est quelque chose de mauvaise. Parce que si la révolution avait été aussi mauvaise que ça, on ne serait pas fiers de vivre en démocratie. D'un côté, j'aimerais vous dire oui. Et de l'autre côté, j'ai toujours peur de la révolution. Parce que forcément, je suis sûr que derrière, on pourra construire quelque chose. Ce que j'ai peur, c'est de l'instant présent et des personnes qui vont partir. Et ces personnes-là, personne ne les entend ou ne leur donne la possibilité de pouvoir s'exprimer, comme le dit Malcolm X là. Sauf que dès qu'ils commencent à casser, dès qu'ils commencent à brûler, on leur donne la possibilité de s'exprimer, le grand débat, on leur donne des, mais... on leur donne des sous pour
vous,
pallier.
Vous faites allusion là à la souffrance en deux mots, puisque si on pense aux gilets jaunes aujourd'hui, on sait que cela concerne ce qu'on appelle les petits blancs. Vous, de quelle souffrance vous parlez véritablement? Vous opinez du chef en écoutant les propos de Malcolm X. Je me demandais si vous, à 33 ans, vivant entre la RDC et l'Hexagone, les mots d'un Malcolm X qu'il a prononcé quand même dans les années 60 de cette Amérique ségrégationniste, est-ce que ces mots font toujours mouche sur vous?
Ah mais ces mots, pour moi, je les trouve d'une actualité presque oppressante.
Pour la cause noire ou pour la cause de la France dans son ensemble?
Pour la cause de l'humanité dans son ensemble. C'est-à-dire que la cause des Noirs n'est pas une cause décorrélée de la cause de l'humanité. Tant qu'il y aura de tels écarts de souffrance entre les êtres humains, personne, comme il dit, ne doit être tranquille. Donc, que ça soit les petits blancs, qui sont ma famille, mes cousins, mes oncles et tantes, qui vivent en Bourgogne, qui vivent en Bretagne, en Charente, ou que ça soit pour les Noirs, qui sont mes frères et cousins aussi, qui vivent en Île-de-France ou ailleurs en France ou au Congo, il y a cette question de la domination, et cette domination ne peut pas être aussi grande.
Donc vous n'êtes pas dans une position clivante?
Non, moi c'est pour ça que je suis parti justement de la politique. C'était ce côté binaire justement de soit on est avec, soit on est contre. Moi je veux pas être contre ou avec. Moi je veux faire en fait avec ceux qui souhaitent faire. Donc je veux des solutions. Je ne veux pas être contre. C'est trop fatigant d'être contre.
En tout cas, votre passage au mouvement des jeunes socialistes vous a dépucelé politiquement. Vous pouvez leur dire merci pour ça au moins.
Complètement.
Franchement, Bollois, vous avez compris effectivement comment fonctionne ou comment peut-être dysfonctionne le système démocratique à la française. Il faut aussi dire que vous le déscolarisez, vous avez bien rattrapé votre retard puisque vous le disiez tout à l'heure, vous avez un master en sciences politiques aujourd'hui. Et ce qui m'a intéressé à la lecture de La Rage de Vivre, c'est que vous racontez qu'à un moment donné, vous vous êtes rapproché des militants de Cité en Mouvement avec qui vous avez lancé, c'est un exemple, hein, mais ça parle, je trouve, une action intitulée Le Nègre Joyeux. Qu'est-ce que c'est que cette action ?
Le Nègre Joyeux, c'était une affiche qui ornait la place de la Contrescarpe dans le 5e arrondissement, où il y avait un noir qui était en train de servir une femme blanche. Donc évidemment, le noir est un nègre, c'est un nègre de maison habillé comme tel. Sauf qu'on le voit pas, la femme est pareille assise, et donc on le voit pas, il faut avoir fait un peu de recherche. Et au-dessus, il y a marqué en gros, donc tout au-dessus, le nègre joyeux. Et en fait, même les nègres de maison, malgré leur position sociale supérieure aux nègres des champs, n'étaient pas joyeux en fait. Personne ne peut être joyeux d'être esclave, et donc il y a une dichotomie entre nègre et joyeux en fait. Il faut savoir qu'en fait, à la base, c'était une affiche d'un chocolatier. Et cette enseigne, du fait qu'elle a perduré dans le temps, est devenue un monument historique. Comme si demain, G20 ou Banania devenait quelque chose d'historique. Et du coup, on ne pouvait pas l'enlever. Et après des années de lutte et de combat, la mairie de Paris a enfin décidé de la retirer.
De combat mené par...
De plein de militants, mais oui, c'est vrai qu'on a mis, avec Cité en Mouvement, on a mis en avant cette problématique, parce que c'était comme une insulte en fait, c'est une insulte à tous les Noirs et à l'histoire même de la France, entre l'esclavagisme, le colonialisme. Cette insulte, on pouvait pas la garder, et nous on a toujours eu vocation à vouloir pousser la France dans ses meilleures directions plutôt que d'être dans le déni et de se
cacher. Vous souhaitez que la France assume son inventaire colonial, enfin.
Assume son histoire dans ses moindres recoins et que ensuite elle pourra véritablement avancer.
Vous savez quoi, Bollois Sabourin, malgré l'heure, je crois qu'on va pas pouvoir faire l'économie de l'actualité politique, désolé, qui vient de toucher récemment la RDC.
Nous avons vécu au cours des décennies des périodes d'incertitude et d'extrême tension dans un climat politique non apaisé. Mais aucun de ces moments n'a pu altérer votre détermination à permettre au peuple congolais de se choisir librement Émilie.
H comme Home Sweet Home.
Félix Tshisekedi, qui symbolise donc pour les uns l'alternance politique et pacifique, et les autres y voient plutôt une parodie d'élection avec assurément des fraudes ici et là. Qu'est-ce que le petit cœur de Bolewa a ressenti devant ces résultats?
Bah, ça a été forcément une parodie d'élection, puisqu'on a voté en 2018, on a eu les résultats en 2019. Donc forcément, il y a une parodie d'élection là-dedans. Et ça, il faut surtout pas se le cacher. Ça veut dire qu'on a encore des progrès à faire dans notre État et dans son fonctionnement. Et si le président actuel est reconnu, qu'il soit reconnu et qu'on puisse avancer, et on verra, on jugera sur les actes, plutôt que de juger sur cette parodie électorale.
La question pour vous, c'est: est-ce que vous vivez davantage maintenant au rythme congolais ou au rythme des gilets jaunes? Où est-ce qu'elle se fait, votre vie?
Ma vie se fait entre les deux rives, peut-être dans la Méditerranée.
Ah non, c'est pas une bonne blague ça, franchement, Bolewa.
C'est vrai, mais j'y pense parce que...
Vous y pensez comment?
Bah parce que mon oncle est arrivé à Lampedusa il n'y a pas longtemps. Ça fait des années qu'il passait entre le Maroc, la Libye. Et quand on sait tout ce qui se passe dans la migration et les galères psychiques, physiques, que ça incombe, ouais, j'ai une pensée pour tout ça. J'ai une pensée pour ma famille qui est aux quatre coins du monde.
Pour cette famille de migrants potentiels, il y a...
Ah ben aujourd'hui, voilà. J'ai un oncle à Lampedusa, mon père vit en Uruguay, j'ai un oncle aux États-Unis, j'ai une tante en Angola, une tante et un oncle en Afrique du Sud, une tante en France. Vous voyez, ma famille ne vit pas au Congo. Pour nous, c'est très difficile.
Vous dites, dans la rage de vivre, toute ma vie, je n'ai connu qu'un grand dehors ou un petit chez les autres. Mmh. J'ai pas l'impression que vous y ayez trouvé votre chez-soi profondément aujourd'hui.
Si, je pense qu'entre Kinshasa et Paris, j'ai mon grand chez moi. Ça fait très grand du coup. ça fait en tout à peu près 24 millions d'habitants si je réunis les deux.
Ouais.
Mais c'est les deux endroits où je me sens pleinement chez moi, malgré qu'à Paris, certaines personnes peuvent me toucher les cheveux j'étais un petit singe.
Et bien que quoi au Congo, j'imagine aussi que vous
Congo,
êtes perçu.
Je suis perçu comme un petit blanc. Avec son français et son lingala approximatif. Mais j'arrive à faire fi, en fait. C'est parce que j'ai accepté, peut-être, que le monde est comme ça.
Le projet, c'est quoi pour vous?
Le projet, pour moi, c'est de mener à bien ce travail de recréation, de faire que ces histoires de ces femmes ne soient pas ressorties qu'au 8 mars ou lors de grands moments. Que mon pays, le Congo, puisse véritablement être la lumière de l'Afrique qu'il doit être, parce qu'il est placé au centre et qu'on lui a donné toutes ses richesses. Et que mon pays, la France, enfin devienne le pays des lumières.
C'est joli. Je ne crois pas que la religion ait été un refuge pour vous dans ce trajet chaotique. En revanche... Ah,
plus ou moins.
Plus ou moins quand même.
Alors, pas la religion en tant que telle, mais ces instances, car à un moment donné, j'allais au catéchisme, mais plus pour être avec un copain et pour manger des chocolats.
En revanche, maintenant que vous avez passé l'âge des chocobéennes, votre philosophie de vie est plutôt à rechercher du côté de l'Ubuntu, ce concept qui vous a été soufflé, je crois, par Nelson Mandela.
Effectivement.
Redites-nous ce qu'est l'Ubuntu.
Je suis parce que nous sommes. Et c'est cette... en fait... Pour moi, ça a été une réponse, et surtout, ça m'a permis de voir toute cette vie, parce que dans cette vie d'errance et de galère, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont tendu la main, et qui m'ont apporté, qui m'ont nourri, qui m'ont hébergé, plein de gens. Et aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce à toutes ces personnes, en fait. Et j'ai pris vraiment conscience de cette philosophie de vie qui, justement, ne met pas... en opposition l'individu et le collectif, mais fait que pour avoir un collectif fort, il faut des individus forts. plus un collectif est fort et plus il créera des individus forts. Donc c'est un vase communicant en fait entre les individus et la communauté. Et c'est là où j'ai véritablement pu, où je me sens le mieux en fait. Et pas dans un individualiste de self-made man qui a tout fait par lui-même, qui s'en est sorti par lui-même, ou un communisme béant où on doit être tous à la même échelle et personne ne doit avoir la tête qui sort plus haut que les autres. Donc ça, c'était véritablement ma ligne à moi.
Vous avez un proverbe en lingala quand même dans la poche ou pas? Même pas? On va pas pouvoir se quitter en lingala. C'est un drame? Vous êtes un amoureux des proverbes ou pas?
Pas plus que ça, je me crée souvent les miens. Fais de ton corps une machine, de ton cerveau une arme, de ton cœur un art, de ta vie une œuvre.
En sol majeur, @rfi.fr.
À lire aux éditions Face Cachée, La rage de vivre. Et puis à voir en tournée, puisque vous êtes en résidence dans le théâtre La Flèche, c'est où ça?
C'est dans le 11e à Paris.
À Paris, le 9 février, avec ce spectacle qui s'intitule
L'arme.
On se quitte avec le fils de Bukavu, avec ce cher Lokua Kanza et son titre Molili. Pourquoi ce titre-là?
Parce que c'est un titre qui me fait des frissons à chaque fois que je l'entends, parce que... tout ce qu'il raconte, et c'est aussi ma bouée avec le Congo. Ça me permet de continuer à pratiquer ma langue.
Ami Léli, Léli, mon kilioyo et l'équipe passée, la koluka kanzela, on a kozoanze la ya bon moi, tina ninié, passi oyo et si la kate. Tenge ninye, okili yango esalama aboye, tambe.
Molili eleki, tambe, lakisanga nzela.
Molili
eleki,
tambe, lakisanga nzela.
Tina ninye. Pasi oyo esilakate, denge ninye, mokili yango esalama boye.
Zabe na ngaye,
oleleki, zabe, lakisanga nzela,
yango mo.
Zabe
na ngaye,
zabe,
kisanga nzela yango mo.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio. Et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, 15h à Paris. Tania Tsikounas, Sophie Jeannin, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine avec, tiens, un homme politique français, j'ai nommé Jean-François Mbaye. À la semaine prochaine.